23h, pile, temps universel. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris, où il est tout juste 1h du matin. L'actualité du monde en 10 minutes sur la radio du monde, c'est avec vous mon cher Mathis Slimano. Bonsoir Mathis.
Bonsoir mon cher Zéphirin, bonsoir à tous. Dans votre journal international, on revient largement sur la mort du pape François, les hommages à travers le monde, de Rome à Jérusalem, en passant par New York, les Nations Unies, la mémoire du pape aussi saluée dans le monde arabe. Le pape réformateur également à la une. Au cours de ses 12 années de pontificat, François aura entrepris de nombreux chantiers, notamment en faveur d'une plus grande transparence du Vatican en matière de finances. On y vient. Et puis dans le reste de l'actu, en Israël, le bras de fer continue entre Benjamin Netanyahou et celui qui l'a limogé, le chef des renseignements intérieurs.
RFI.
Le pape François s'est donc éteint à 88 ans ce lundi de Pâques. Le Vatican a annoncé sa mort peu avant 10h, heure de Paris. François était victime d'un accident cardiovasculaire, lui qui était déjà très affaibli après une hospitalisation d'un mois pour une pneumonie. La disparition du pape, une déflagration pour les 1 400 000 catholiques dans le monde. À Rome, des milliers de fidèles ont afflué, place Saint-Pierre, fleurs et bougies à la main pour une cérémonie de prière. À Jérusalem aussi, ville trois fois sainte, l'émotion était vive. Amira Swilem s'est rendue pour RFI dans la vieille ville et au Saint-Sépulcre.
Il a les yeux embués et un sourire qui peine à retenir ses larmes. Sur le parvis du Saint-Sépulcre, le père Stéphane Milovic raconte le pape, son pape.
Personnellement, j'ai eu la chance de préparer la rencontre entre le pape François et le patriarche Bartholomée, ici en ces lieux. Ça a été un moment très émouvant. Ensemble, ils ont prié le Notre Père devant le tombeau.
À la sortie immédiate de l'église, la boutique d'objets liturgiques de Fayez. Longue barbe, yeux clairs, la trentaine et une certaine émotion dans la voix.
C'est la vie. On est triste parce que les papes sont souvent très politiques. Mais lui, il avait plus de tendresse pour les Palestiniens que les autres papes. Et j'espère que le prochain marchera dans ses pas.
À quelques encablures de là, Hesham El-Saleimi, un commerçant palestinien de la vieille ville, est occupé à aligner les chocolats de Pâques. Il boycotte les médias pour ne plus entendre parler des morts à Gaza. La mort du pape, c'est nous qui la lui apprenons.
C'est un choc, le monde a perdu une personnalité qui appelle à la paix. En tant que musulman, je veux présenter mes condoléances émues à nos frères chrétiens du monde entier. Je voudrais que tu prennes un chocolat, c'est une offrande en mémoire à l'âme du pape.
Chocolat, t'as un chocolat à la mémoire du pape ?
Oui, j'y tiens.
Bon, puisque vous insistez, je vais prendre ce que vous avez de plus petit. Allez, un Twix à la mémoire du pape. Une émotion qui à elle seule raconte combien le pape François a su fédérer les communautés. Amira Swilem, Jérusalem, RFI.
Et toujours en Israël, le président Isaac Herzog salue un homme de foi profonde et de compassion sans fin. La mémoire d'un pape ouvert sur le monde, également saluée par de nombreux pays à majorité musulmane. Par la voix du prince Mohammed Ben Salman, l'Arabie Saoudite, berceau de l'islam, adresse ses condoléances. Condoléances à tous les chrétiens du monde, partagées par l'Iran. Le roi du Maroc, Mohammed VI, salue lui l'œuvre du pape pour sa consécration des valeurs de paix et de coexistence entre les religions monothéiste. Les valeurs d'unité et de paix véhiculées par le pape qui ont inspiré jusqu'aux Nations Unies, son patron Antonio Guterres s'est exprimé ce lundi. On l'écoute.
Le pape François était un homme de foi pour toutes les confessions, œuvrant avec des personnes de toute croyance et de tout horizon pour ouvrir la voie. Au fil des ans, nous, aux Nations Unies, avons été profondément inspirés par son engagement envers les objectifs et les idéaux de notre organisation. Nombre d'entre nous trouvent une grande signification dans son dernier message de Pâques, prononcé hier. Il nous a appelé à ne pas céder à, comme il l'appelait, la logique de la peur. Il a plutôt exhorté le monde à investir dans ce qu'il a appelé les armes de la paix, pour aider les plus vulnérables, lutter contre la faim et promouvoir le développement. Notre monde divisé et discordant sera un bien meilleur endroit si nous suivons son exemple d'unité et de compréhension mutuelle dans nos actions.
La dépouille du pape a été mise en bière dans la soirée. Le Vatican envisage désormais de l'exposer dans la basilique Saint-Pierre. Quant aux funérailles du souverain pontife, les cardinaux doivent se réunir ce mardi pour décider de leur date. Elle pourrait avoir lieu ce week-end, selon la tradition. On s'intéresse à présent à une facette méconnue du pape, celle d'un dirigeant transparent sur les finances du Vatican. Justine Fontaine, malgré une forte opposition au sein de la Curie, le gouvernement de l'Église catholique, le pape a notamment fait sortir le Vatican de la liste des paradis fiscaux.
C'est Benoît XVI d'abord qui a lancé le mouvement, mais François a porté les réformes financières à une autre échelle. Quand le pape argentin prend ses fonctions, en 2013, le secret bancaire est encore de mise au Vatican et de nombreuses transactions financières ont lieu sans aucun contrôle. 2 ans après son arrivée à Rome, il lève donc le secret bancaire. L'année suivante, 5000 comptes suspects de ce qu'on appelle la Banque du Vatican sont fermés. Le gendarme financier de la cité-état voit ses pouvoirs renforcés et en 2020, le Saint-Siège se dote pour la première fois d'un code des marchés publics. François nomme aussi un juge anti-mafia au tribunal du Vatican. Cela aboutit à des procès retentissants. Un ancien président de la Banque du Vatican est reconnu coupable en 2021 de blanchiment, détournement de fonds et malversation aggravée. Surtout, il y a un an et demi environ, l'ancien numéro 3 du Saint-Siège est condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds et abus de pouvoir. Il lui est reproché d'avoir utilisé de l'argent du Vatican pour obtenir un prêt immobilier et pour s'enrichir personnellement. Il a fait appel de cette décision.
Justine Fontaine, service éco de RFI.
RFI.
En Israël, le bras de fer se poursuit entre Benjamin Netanyahou et le chef des renseignements intérieurs. Son limogeage avait provoqué un tollé dans une grande partie de l'opinion israélienne, provoquant des manifestations de masse. Et bien aujourd'hui, Ronen Bar contre-attaque. Devant la Cour suprême israélienne, le premier ministre israélien est directement mis en cause par le chef du Shin Bet. Un document dans lequel Ronen Bar décrit ses relations avec Benjamin Netanyahou a été remis au juge chargé de statuer sur la légalité de son limogeage. À Jérusalem, la correspondance de Michel Paul.
C'est une déclaration écrite sous serment qui est présentée à la cour par Ronen Bar. Il accuse notamment Benjamin Netanyahou d'avoir exigé de lui une loyauté complète, notamment en cas de crise constitutionnelle, autrement dit, obéir au Premier ministre et non pas aux décisions du tribunal. Le directeur du Shin Bet affirme également qu'à plusieurs reprises, le chef du gouvernement avait exigé qu'il utilise les méthodes de l'agence de renseignement à l'encontre des dirigeants du mouvement de protestation, notamment pour trouver la source de financement des manifestations. Netanyahou aurait également cherché à obtenir sa signature sur un document le dispensant pour des raisons de sécurité de comparaître devant les juges dans le cadre de son procès pour fraude et corruption. Et c'est à la suite du refus de Ronen Bar que Benjamin Netanyahou avait affirmé ne plus avoir confiance en lui. Pour le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, cela prouve que Benjamin Netanyahou présente un réel danger pour la sécurité du pays. Le bureau du Premier ministre, pour sa part, affirme que le document est un tissu de mensonges et que Ronen Bar apporte lui-même la preuve de son échec. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Lui est sur la sellette aux États-Unis. Le président de la Fed, la banque centrale américaine, de nouveau attaqué ce lundi par Donald Trump, alors que Jérôme Powell refuse toujours de plier aux injonctions du président concernant la politique monétaire. Julien Clémenceau.
Donald Trump a effectivement passé un nouveau cap. Pour le président américain, Jerome Powell est un major loser, un grand perdant. Depuis plusieurs jours, la tension est montée de plusieurs crans entre les deux hommes parce que le président de la Fed refuse de baisser les taux d'intérêt de la banque centrale. Le banquier estime que cette mesure risquerait d'augmenter l'inflation, dont le niveau reste au-dessus de l'objectif des 2%, alors que la politique de taxes douanières de Donald Trump pourrait entraîner de nouvelle poussée inflationniste. Une erreur magistrale, selon le président américain, qui surnomme aussi Jerome Powell « Mr. Too Late », « Monsieur Trop Tard » et accuse le banquier de pénaliser la croissance américaine. Depuis plusieurs jours maintenant, il clame d'ailleurs son souhait de lui trouver un successeur. L'indépendance de la Banque centrale américaine faisait pourtant jusque-là figure d'acquis. Ce bras de fer inquiète les investisseurs. Si Donald Trump réussit par exemple, avec l'aide de la Cour suprême, à assujettir la Fed, ce sera la fin de la prévisibilité de la politique monétaire américaine.
Et à l'inverse, certains ont les faveurs de Donald Trump, notamment le chef du Pentagone, de nouveau dans la tourmente. Des médias révèlent qu'il aurait partagé les détails d'une frappe américaine à sa famille via une boucle signal. Au mois de mars, Pete Hegseth avait déjà partagé des informations similaires à un journaliste américain, ce qui lui vaut d'ailleurs une enquête interne. Mais il fait un travail formidable, l'a défendu Donald Trump. Il est 1h10 à Paris, 23h10 en temps universel. Bonne suite des programmes sur RFI.